Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 24 mars. Le Covid-19 et des taux d'incidence qui grimpent dans la métropole et dans le département. Un taux de positivité à 8,3% aux HCL. On s'apprête à ouvrir une quinzaine de nouveaux lits en soins critiques. L'État et la métropole ont officialisé la signature d'un accord territorial de relance. Une relance qui passe notamment par la transition écologique. Nouvelle guerre interne à 3 mois des élections régionales. Les Républicains se payent le luxe d'une guerre fratricide à la tête de leur fédération. Attention, une action régionale des agriculteurs est prévue demain à Lyon. Évitez le secteur de la place Bellecour où on attend entre 200 et 300 tracteurs demain. Les deux sculptures qui entouraient la statue équestre de la place Bellecour ont disparu. Elles sont arrivées au musée des Beaux-Arts, place des Terreaux. Explication dans le courant de cette édition. Que vont-elles devenir? Et puis les robes de Max Chaoul aux enchères ce mercredi et également demain jeudi. Le célèbre couturier a disparu brutalement le 1er décembre dernier d'un cancer. Foudroyant.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, cet homme qui a tiré à la carabine sur des dizaines d'oiseaux ces dernières semaines, en plein cœur de Lyon, au Brotteau. Il a tué au moins une trentaine de pigeons ramiers, également des bisets, des merles ou des corbeaux. La police, alertée par le voisinage, a pris l'affaire très au sérieux. Mais le tireur s'est montré plus prudent ces derniers temps, ne tirant plus dans la journée, mais seulement tôt le matin ou après 18h. L'association Dignité Animale, qui a porté plainte le 15 février, a remis des projectiles retrouvés sur le cadavre d'un pigeon au commissariat du 3e et du 6e arrondissement chargé de l'enquête. Le suspect a été finalement identifié et interpellé. Il aurait agi pour s'amuser, dit-il. Une affaire qui n'a pas vraiment fait rire les parents d'enfants dans cette résidence des Brotteaux. Les variants représentent désormais 93% des contaminations au Covid-19 dans le Rhône, dont 82% de variants britanniques. Les taux d'incidence atteignent 387 pour 100 000 dans la métropole, 383 pour 100 000 dans le département. Un taux de positivité à 8,3%. La pression dans les hôpitaux s'accentue. On dénombrait hier quelques 904 patients Covid+, hospitalisés, dont 188 en réanimation. Depuis 2 jours, le nombre de nouvelles admissions est élevé, avec un total de 79 nouveaux patients ces dernières 24 heures, dont 25 en réa. Aux HCL, le taux d'occupation en réanimation frôle les 95%. Après avoir maintenu depuis plusieurs semaines la jauge à 178 lits ouverts, le CHU de Lyon s'apprête à ouvrir une quinzaine de nouveaux lits de soins critiques. 35 vaccinodromes, des grands centres permettant de vacciner massivement, doivent être opérationnels dans les prochains jours en France. L'éco-organisme Cyclamed mobilise depuis sa création en 1993 les citoyens sur la nécessité de ramener les médicaments non utilisés, les MNU, en pharmacie pour des raisons sanitaires et environnementales. Les médicaments non utilisés et récupérés permettent d'éclairer et chauffer des logements ou établissements publics. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas bon élève en la matière. 1141 tonnes de MNU ont été éliminées dans le respect de l'environnement en 2019, soit 143 grammes par habitant et par an, une baisse de 3% par rapport à 2018. Et la moyenne nationale est de 159 grammes par habitant et par an.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
État et métropole de Lyon ont officialisé la signature d'un accord territorial de relance. Un accord portant sur 216 millions d'euros. Léo Ballery.
En septembre 2020, un plan national de relance de 100 milliards d'euros a été annoncé. Cette semaine, un accord territorial de relance entre l'État et la métropole lyonnaise a été signé, annonçant plusieurs mesures axées sur la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale. Pascal Mayoz, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous en dit plus sur le montant de ce plan et son utilité.
Il était important que nous puissions, avec le président de la métropole, sceller un deuxième engagement qui porte sur 216 millions d'euros et qui nous permettra là aussi, dans les 2 ans qui viennent, notamment s'agissant de la transition écologique, de faire avancer plus rapidement un certain nombre de projets et de montrer tant aux entreprises qu'aux particuliers que le plan de relance est là pour améliorer leur vie quotidienne et pour montrer rapidement, dans les 2 ans qui viennent, les effets de ce plan d'accélération des projets.
L'accord prévoit 3 axes d'application. Tout d'abord, la transition écologique qui se traduit par l'aide à la rénovation énergétique des bâtiments, à l'instar de 13 collèges métropolitains à qui sera alloué 60 millions d'euros. La métropole prévoit également le développement des circuits courts ou encore de l'agriculture urbaine. En tout, ces c'est près de 104 millions d'euros qui seront consacrés à la transition écologique. Bruno Bernard, président de la métropole lyonnaise, nous en dit plus sur cet accord territorial.
Nous, ça nous permet d'appuyer notre politique de relance, nos investissements qui sont importants, plus de 3,6 milliards d'euros prévus dans le mandat pour la métropole de Lyon. Et cette aide de l'État sur d'autres projets va nous permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus vite. Je pense notamment pour la rénovation des collèges, la rénovation thermique des collèges qui ne sont pas toujours en bon état. On va pouvoir faire un peu plus dans les 2 ans qui viennent grâce à ce soutien de l'État, ce qui est donc une bonne chose.
Autre axe prioritaire, celui de la compétitivité. Cela pourra se traduire entre autres par un soutien aux acteurs industriels à travers l'aide à la plateforme Lyon-Vallée de la chimie ou encore le recyclage de friches industrielles. Toujours dans l'axe de la compétitivité, la culture et l'innovation sont également à l'ordre du jour, la métropole voulant consacrer plus de 6,7 millions d'euros à la préservation du patrimoine public, historique et culturel. Enfin, le dernier aspect abordé est celui de la cohésion sociale. Ayant de multiples objectifs tels que l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes, avec par exemple le soutien au plan national Un jeune, une solution. L'État et la métropole s'engagent également à favoriser la production de logements sociaux, y compris pour les étudiants. Bruno Bernard annonce la création de près de 6000 logements sociaux par an.
À 3 mois des élections régionales, les Républicains se payent le luxe d'une guerre fratricide. À la tête de leur fédération du Rhône, le 12 avril, les adhérents LR devront choisir entre 2 candidats, le président sortant et maire d'Eyeux-la-Pape, Alexandre Vincent Day, 38 ans, il était seul en lice en 2018 lors de la précédente désignation, et Jérôme Morauge, 42 ans, c'est le maire de Pierre-Bénite, également conseiller régional, Jérôme Morauge qui refuse d'être présenté comme le candidat de Laurent Wauquiez. 2800 adhérents à jour de cotisation vont pouvoir en tout cas trancher et départager les 2 candidats le 12 avril prochain. Les régionales, le Parti radical de gauche, officialise son soutien à la candidature de Najat Vallaud-Belkacem, Parti socialiste, aux prochaines élections. Actuellement, le Parti radical de gauche a son propre groupe dans l'hémicycle à Confluence, avec 5 élus, dont Bernard Chavreau pour le Nouveau-Rhône et Ludivine Piantoni pour la métropole. L'IEP organise une semaine thématique dédiée à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la SACRA. Mais pour certains étudiants, la LICRA, association qui lutte justement contre le racisme et l'antisémitisme depuis 1927, n'est plus la bienvenue. Le syndicat solidaire étudiant et le collectif féministe Pamplemousse de Sciences Po dénoncent de nombreuses ambiguïtés de la LICRA, notamment vis-à-vis de son rapport à l'islamophobie ainsi qu'à la laïcité. La LICRA Auvergne-Rhône-Alpes répond que sa position sur le concept d'islamophobie ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous le récusons, dit-elle. Sciences Po Lyon, dirigée par Renaud Père, insiste sur son engagement dans la lutte contre toute forme de discrimination. La direction de l'établissement rappelle son attachement profond au partenariat signé en juillet 2020 avec la LICRA et la volonté de poursuivre à ses côtés la mise en place d'actions de sensibilisation. Une action régionale des agriculteurs éleveurs en tête est prévue demain avec Lyon comme point de convergence. Entre 200 et 300 tracteurs pourraient ainsi se retrouver à la mi-journée, place Bellecour. Attention donc si vous devez vous déplacer demain dans le secteur. De fortes perturbations sont à prévoir. Au cœur des revendications à caractère national, la question d'une plus juste rémunération.
Lyon demain, histoire lyonnaise.
Les 2 sculptures qui entouraient la statue équestre de la place Bellecour sont arrivées au musée des Beaux-Arts, place des Terreaux. Ces allégories du Rhône et de la Saône constituaient les œuvres d'art les plus anciennes de la place Bellecour. Mais leur parcours a été tumultueux, compliqué, comme nous l'explique Ludmila Virasa-Minaiken, conservateur des sculptures anciennes au Palais Saint-Pierre.
Elles ont été réalisées pour orner le piédestal d'une statue équestre qui est datée du début du XVIIIe siècle, mais qui a été fondue à la Révolution et transformée en boulet de canon, on le sait. De manière exceptionnelle, le maire d'alors, en 1792, Louis Vité, les a fait mettre à l'abri dans l'atrium de l'hôtel de ville. Et c'est seulement en 1957 qu'Édouard Herriot décide de les adjoindre à un nouveau monument équestre qui a été réalisé en 1825 par François-Frédéric Lemot, parce qu'il fallait vider l'atrium pour y réaliser des travaux de rénovation. Et donc c'était un assemblage entre des sculptures du premier quart du XVIIIe siècle et un monument équestre, lui, datant du début du XIXe.
Le Rhône et la Saône avaient été placés en 1957 par Édouard Herriot au pied de Louis XIV. Une aberration à plus d'un titre. D'abord, l'auteur, le mot de la statue équestre, réalisée en 1825, ne souhaitait pas cette proximité, craignant qu'elle dénature son œuvre. Bien que solidement ancrée dans le béton, les 2 sculptures, qui pèsent 1,5 tonne pour la Saône, 2 tonnes pour le Rhône, étaient soumises aux affres de la météo et des manifestants qui, de 1968 au Gilet jaune, ont pu escalader en toute impunité ces œuvres d'art exceptionnelles. Fanny Gruet, restauratrice.
Avec un œil non averti, on trouve que ce ne sont pas en si mauvais état que ça. Elles ont quelques graffitis, ce n'est pas si embêtant. Par contre, quand on se penche un peu plus sur leur état de conservation, quand on est spécialiste de la conservation des œuvres d'art, on constate quand même des usures qui sont telles qu'on arrive à la limite du point de rupture, notamment au niveau des bras, du Rhône et de la Saône. En fait, à force de monter sur les sculptures, à force de les toucher, ce toucher qui est répété autant de fois qu'il y a du public qui monte sur les sculptures, finit par dégrader avec le temps. Et par exemple, il y avait des fissures qui sont présentes aujourd'hui qui n'étaient pas présentes en 2015 lors de l'étude. Donc on constate vraiment une évolution qui était devenue relativement rapide. C'est-à-dire que plus une œuvre est dégradée, ce qui est assez logique, plus vite elle se dégrade à la suite de ça.
Et le fait de les sortir de l'endroit où elles étaient va permettre aussi de découvrir des morceaux de la statue, entre guillemets, qui n'étaient pas visibles, c'est ça ?
Absolument. En particulier le revers, qui présente toujours des intérêts sur le côté technique, en fait, de la fonte des sculptures en bronze. Le sable qui a servi pour la couler, pour faire le noyau, pour faire le moule. Ces techniques de fabrication apparaissent au revers, ne sont pas effacées. Quand l'artiste met en œuvre sa sculpture, en particulier en bronze, on dit qu'il va ébarber, il va nettoyer la face pour effacer les traces d'outils de mise en œuvre. Mais par contre, enfin, sauf évidemment ce qui est volontaire, notamment sur la sculpture de la Saône, il y a des traces qui sont laissées pour la mise en mouvement des volumes. Ça, c'est tout à fait volontaire. Par contre, tout ce qui consiste, qui est trace de la coulée, est retiré, atténué, pour laisser place à l'esthétique, évidemment. Donc tout ça, on l'a encore derrière. Et donc, il va s'agir de pouvoir enfin lire ça et aussi de stabiliser, parce que l'état de corrosion derrière est très avancé. Et donc, cette matière originale était en train de se perdre.
Les deux statues ont été réalisées par Nicolas et Guillaume Coustou, deux sculpteurs, deux frères originaires de Lyon. Avant de pouvoir être à nouveau exposées, elles vont être restaurées. Les explications de Gaëlle Giralt, restauratrice métal.
Ces sculptures vont être nettoyées dans un premier temps, puisqu'elles sont très encrassées. Elles vont être également légèrement micro-sablées pour permettre d'enlever les produits de corrosion superficielle qui modifient l'aspect de surface. Et puis, on va refaire des restitutions de patines sur les parties usées, donc là où le métal est visible. Faire quelques retouches, voilà, pour homogénéiser. La question n'est pas de reprendre la totalité de la patine, juste de manière très ponctuelle. Et enfin, de protéger avec une cire microcristalline.
Ah, ce qu'il faut être conscient, c'est que ce sont des statues qui sont monoblocs.
Qui sont monoblocs, elles sont d'une qualité assez impressionnante. Elles sont vraiment le témoignage d'un savoir-faire du 18e, d'une grande qualité. Donc c'est des fontes à cire perdue monoblocs. Il y a quelques éléments d'assemblage, mais qui sont quand même assez restreints. Il reste d'ailleurs des témoignages aussi à l'intérieur de ces sculptures. Il reste le noyau en sable de Fontainebleau et quelques structures, quelques armatures en fer qui sont très intéressantes, en tout cas à documenter.
Depuis une trentaine d'années, le Musée des Beaux-Arts souhaitait voir ses sculptures dans son enceinte pour compléter ses collections du XVIIIe siècle. Elles trouveront une place définitive au pied de l'escalier monumental Thomas Blanchet. Sylvie Ramon, directrice du Musée des Beaux-Arts.
Ça va être aussi pour nous l'occasion de communiquer à nouveau sur l'importance de notre fonds de sculpture, qu'on connaît peut-être mieux pour le Moyen-Âge et la Renaissance et le XIXe siècle, et peut-être pas assez pour la sculpture française du XVIIIe. C'est une restauration qu'on souhaite vraiment ouverte et partagée avec le plus grand nombre. Elle va se dérouler déjà sous les arcades du cloître, donc elle sera visible. Il y aura tout un dispositif en fait de fenêtres qui permettra vraiment au public d'assister vraiment aux opérations de restauration. Et puis surtout, nous avons prévu donc toute une programmation de médiation. Le public aura la possibilité donc de prendre rendez-vous et d'assister à des médiations qui seront assurées à la fois par les restauratrices qui sont en charge de l'opération et par les médiateurs de notre service culturel.
Le gros de la restauration est programmé en juin. Le Musée des Beaux-Arts espère avoir rouvert au moins son cloître d'ici là.
Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Basket, l'ASVEL a tremblé jusqu'au bout pour dominer Nanterre 96-92 après prolongation. En football, en Ligue des Champions féminine, les quarts de finale aller contre Paris. C'est ce soir au Parc des Princes à 18h pour les filles de Jean-Luc Vasseur. Eugénie Le Sommer est de retour. Mis à part la jeune latérale gauche Selma Abacha, les Lyonnaises devraient se présenter au complet face aux Parisiennes. Et puis les robes de Max Chaoul aux enchères ce mercredi. Une centaine de robes de mariée sera disponible dispersés en ligne. Ce mercredi, 60 provenant de sa boutique à Paris, rue des Saints-Pères, et une cinquantaine extraites de sa boutique du 2e arrondissement à NR, rue François Dauphin. La vente se fera uniquement sur interenchere-live.com. Des robes imaginées par le couturier lyonnais, disparu brutalement le 1er décembre d'un cancer foudroyant. 276 robes de cocktail seront quant à elles vendues demain à 14h30 sur place au 9 rue François Dauphin. Des robes de collection produites pour les essayages, dont les estimations oscillent entre 200 et 300 euros et entre 800 et 1000 euros pour les plus travaillées. Elles étaient vendues entre 3000 et 15 000 euros en boutique. À ces montants, il faudra bien sûr ajouter 14,28% de frais pour le commissaire-priseur. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.